Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième Art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode!
Bonjour à tous, et on est avec Emmanuel Merceron aujourd'hui. Emmanuel, comment ça va?
Ça va très bien, bonjour à tous.
Merci d'être là. Est-ce que tu peux rapidement te présenter avant qu'on attaque le gros sujet qui t'a?
Ouais, moi donc c'est Manu, je suis supporter du FC Nantes depuis ma plus tendre enfance, avec une première à la Beaujoire dans le début des années 90. Donc ça rajeunira pas tout le monde en entendant ça. Grand fan du FC Nantes, de père en fils, de grand-père en père en fils. Donc je maîtrise bien le sujet. J'ai pu travailler un peu dans le football aussi dans ma carrière pro, que ce soit en MLS et au FC Nantes également il y a une dizaine d'années. Donc voilà, très, très calé sur le sujet, passionné surtout. Donc très content d'être avec vous.
Bah, c'est justement pour ça qu'on t'a invité. Alors bon, bah, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, on va dire, l'opinion au départ et à quel moment il y a eu une pointe de rupture sur Kita à son arrivée?
En fait, maintenant, ça va faire une grosse quinzaine d'années que Waldemar Kita est présent. Il a racheté le club à Dassault, qui avait, suite à différents rachats d'entreprises, s'était retrouvé sans le vouloir avec le FC Nantes dans son portefeuille d'entreprises. Et Dassault, bah, c'est quelque chose dont il avait strictement rien à cirer. Évidemment, ça se passait pas bien avec Dassault. Il a mis le club en vente suite à un coup d'éclat de supporters qui avait envahi un conseil d'administration de Dassault il y a une quinzaine d'années de ça maintenant. Donc à partir de ce moment-là, il voulait vraiment plus rien avoir à faire avec le football. Et du coup, pour ceux qui vont se rappeler, comme d'habitude, quand un club va mal et qu'il est en vente, c'est Luc Daillant qui est venu au chevet du FC Nantes et qui a présidé le club l'année de la première descente en 2007 pour la transition et pour trouver un repreneur. Il y avait deux repreneurs, Waldemar Kita et un autre dossier, qui, dans le fantasme collectif 15 ans après, était apparemment beaucoup mieux. Donc, ensuite, la ville de Nantes, Dayan ont choisi le projet de Kita, qui était le plus solide financièrement, visiblement. Il venait juste de couler Lausanne Sport, pour information, Waldemar Kita, en Suisse, avec beaucoup de trafic déjà d'agents qu'on retrouvera. Pas mal dans les années qui suivent. Et donc, une première plutôt bonne pour Kita, puisqu'il avec le travail de Luc Daillant et Xavier Gravelaine, qui était le directeur sportif temporaire de cette année-là, Nantes remonte directement en Ligue 1 assez facilement, mais redescend tout de même l'année d'après. C'est l'année où, je sais pas si les plus jeunes vont s'en souvenir, c'est l'année où Nantes recrute Klasnić, notamment, qui marque pas un but pendant 6 mois, et Nantes descend. Redescend, et là du coup 4 ans de Ligue 2 sous Kita, et là les premières tensions apparaissent réellement, même si on était déjà méfiant dès l'achat du club, vu les échos qu'on avait de Suisse et de son passage catastrophique à Lausanne. Mais bon, là il a commencé à mettre son fils directeur général, qui avait à l'époque 24-25 ans. Ensuite, il a commencé à prendre des gens un peu mafieux autour de lui, comme Gilles Favard, comme Christian Larriep, paix à son âme. Comme Pascal Praud, en directeur de communication du FC Nantes, qui avait à peu près, qui avait des méthodes, les journalistes locaux peuvent en parler, dès qu'il y a un article qui lui plaisait pas, il essayait de faire virer le mec dans les rédactions, donc c'était assez violent. Et donc là, ça a commencé vraiment à se tendre réellement avec ces groupes-là, avec ces gens-là, notamment la Tribune Loire et le groupe d'Ultra, la Brigade Loire, qui a eu forte affaire sur l'année de la redescente ou sur la préparation estivale. Il y a Christian Larriep qui était le directeur sportif de l'époque, un peu mafieux sur les bords, et qui avait envoyé une équipe de 15 mecs accueillir les Ultras nantais en déplacement pour un match de préparation. Donc tu vois, ça date quand même ça date énormément. Dans les plus gros faits d'armes de cette contestation, il y a eu le fameux coup de tête de Waldemar Kita à un supporter au Stade de France pour une finale de Gambardella. Donc tu vois, ça remonte déjà à plus d'une dizaine d'années. La contestation s'est jamais arrêtée. La grève des ultras a été assez longue, 4-5 ans. Elle a été arrêtée l'année où Nantes remonte, donc il y a maintenant 11 ans. Là, les supporters ont décidé d'arrêter de faire la grève de champ, mais de continuer la contestation. Et donc, ensuite, il y a eu des épisodes assez importants, notamment pendant le Covid, où il y a eu des faits assez graves dans la contestation, avec des débordements qui ont fait un peu tanguer le vaisseau Valdemarquita, mais il est resté à la barre. Et en gros, cette contestation, elle existe quasiment depuis le jour du rachat jusqu'à aujourd'hui, où malgré une Beaujoire pleine, elle est toujours présente. Et les supporters les plus assidus, les plus fervents, sont toujours contre la présence de Valdemarquita et de son fils au club. Aujourd'hui, il y a un nouveau public post-Covid. Je pense que tous les stades l'ont constaté, avec beaucoup de familles qui, eux, sont un peu plus détachés de tout ça. Mais les supporters les plus fervents, qui suivent le plus assidûment l'actualité du club, sont toujours vent debout contre l'Equita.
Ouais, ben on en parlera un peu plus du fils après, mais pour continuer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation autour de Kita? Tu as parlé justement des agents et des nébuleuses un peu autour des Kita depuis 15 ans. À quoi ça ressemble aujourd'hui?
Alors, je pense que vous vous rappelez tous de Moji Bayat, l'agent belge, dont le frère doit être président de la fédération maintenant et président de Charleroi également. Il a fait plusieurs gardes à vue, il a fait un peu de prison pour différents trafics, et c'était le directeur sportif officieux du club pendant des années. Ça remonte à une dizaine d'années, quand les premiers Belges ou joueurs issus de la Belgique sont arrivés. Je pense à Guillaume Gillet, je pense à Khalifa Koulibaly, c'est évidemment lui qui les a mis, Moses Simon, donc il a aussi une réussite sur tout son trafic. Mais ouais, c'était avec l'agent également Bakary Sanogo, qui lui aussi a des choses à voir avec la justice. Donc, qui a d'ailleurs éclaboussé hein, les différents trafics de Moji Bayat, Bakary Sanogo, ont d'ailleurs éclaboussé Valdemar et Frankita, qui se sont retrouvés en garde à vue. L'entité FC Nantes a été aussi mise en examen cet été. Donc, on ne sait pas comment ça va se finir pour l'Equita, puisque Valdemar a aussi un procès, enfin une enquête derrière lui par le parquet financier pour fraude fiscale. Donc ça commence un peu à s'accumuler. Maintenant, ils ont chaud parce qu'ils sont aussi mis dans ces affaires de transferts frauduleux avec des rétrocommissions envers Moji Bayat, envers Bakary Sanogo. Donc ça, c'est des gens qui nous ont entouré le club pendant une dizaine d'années. Et cet été, Frankita, lui, a décidé qui reprend un peu les rênes du club. Petit à petit, Valdemarquita prenant du recul. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en étant extérieur au FC Nantes, on le voit de moins en moins dans les médias. Il était venu parader après la victoire en Coupe de France, mais on le voit de moins en moins. C'est surtout Frankita qui prend sa relève aujourd'hui. Et Frankita, lui, il a décidé de couper un peu avec tout ça. Et il a mis en place cet été, là, pour la première fois depuis longtemps, une cellule de recrutement qui est dirigée par Baptiste Drouet, qui est un ancien scout du FC Lorient. Et qui a travaillé pour la première fois sur le recrutement cet été et qui est sur le mercato d'hiver en ce moment. Donc ça, c'est l'organisation actuelle. Il y a encore évidemment quelques agents qui tournent autour du club, mais Frankita essaye un peu de faire ça plus dans les règles, parce que de toute façon, ils sont obligés, vu qu'ils sont, ils se sont retrouvés mis en examen pour ça, ils sont obligés de plus faire appel à des agents non licenciés à la FFF. Donc voilà, ils essaient de se mettre dans la norme et de remettre les formes aujourd'hui. Mais on sort quand même d'une dizaine d'années, en gros, de mainmise de Moji Bayat sur le club, qui faisait ses transactions entrantes, sortantes. Il avait même un moment, pour les plus techniques d'entre nous, il avait même à un moment un mandat de sortie et d'entrée sur tous les joueurs du FC Nantes, ce qui a tendu beaucoup de transferts avec des agents qui, évidemment, ne voulaient pas partager leur commission avec un mec qui n'a rien fait dans le transfert. Donc voilà pourquoi ces dernières années, l'effectif du FC Nantes s'est pas mal affaibli.
Et justement, donc, tu parles de Franck et des changements, au-delà de peut-être son rapport avec les agents, parce que bah, forcé par la loi, est-ce que tu vois qu'il y a d'autres choses qui ont changé depuis le changement de Kita à la direction?
Malheureusement non, puisqu'on a encore la valse des entraîneurs qui, depuis l'arrivée de Valdemar Quitta il y a 15-16 ans, on en est rendu au 22e coach avec Jocelyn Gourvennec, en comptant les intérimaires.
Ah oui, c'est ça,
Donc,
avec les intérimaires, j'allais dire, sinon on avait compté 20, nous.
ouais,
Mais oui.
ça commence à faire une petite liste. Donc non, sur la valse des entraîneurs, là par exemple, on avait un sentiment un peu de renouveau la saison dernière avec l'arrivée de Pierre Aristouy, qui est évidemment pas Jürgen Klopp ou pas Pep Guardiola, mais qui avait des idées de jeu, qui avait sauvé le club avec une mission bien définie où il avait tout, il avait annoncé dès son entrée en poste qu'il se sauverait à la dernière journée avec le match face à Angers, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on a eu une très belle période en début de saison où on est monté jusqu'à la 7e place après 7-8 journées, et donc assez loin de la zone de relégation. Après 3 défaites, Franck Kita le vire alors qu'il était 10e. Aujourd'hui, on avait 5 ou 6 points d'avance sur la zone rouge. Aujourd'hui, sous Jocelyn Gourvennec, on est repassé 14 ou 15e et on n'a plus que 2 points d'avance sur la zone rouge. On est dans une dynamique catastrophique. Le problème est toujours le même, c'est-à-dire que là, ils ont Franck, tout comme son père, n'a confiance en personne à part lui, et donc c'est compliqué de travailler dans la longueur. Il a l'air d'être très emballé par Jocelyn Gourvennec. Je pense que c'est le seul à Nantes aujourd'hui. Donc,
Le seul en France, non?
ouais, voire même à Lille et à Bordeaux, ils doivent bien rigoler. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment de changement aujourd'hui. Il y a quand même une cellule de recrutement plus pro. On va pas se mentir là-dessus. On va pas non plus taper sur l'Équita pour taper sur l'Équita. Il y a cette cellule de recrutement un peu plus pro, mais il y a encore des choses. Il y a encore énormément d'amateurisme. On est dans le deadline day aujourd'hui du mercato d'hiver. On a vendu Quentin Merlin, qui était notre latéral gauche titulaire et notre seul gaucher latéral. Et il est 9h44, le dernier jour du mercato. Il est parti il y a une semaine. On n'a toujours pas d'arrière-gauche. Franck Kita a tout misé sur Massadio Haïdara. Résultat, lance le bloc depuis hier soir parce que Franck S ne veut pas le laisser. Donc là, ils vont devoir faire un panic buy dans la journée pour un latéral gauche. Donc on retrouve les mêmes errements que sous Valdemar.
Est-ce que dans les 5, on va dire les 5 à 10 années qui viennent, est-ce qu'on a l'espoir de voir les Kita lâcher le club? Parce qu'évidemment, il y a eu plein de propositions d'achat, j'ai l'impression, depuis quelques années, notamment les Anglais, j'ai l'impression, dans les 3 à 5 dernières années. Est-ce qu'il y a une possibilité de les voir lâcher enfin le club avec une vraie proposition?
Valdemar Quitta n'est pas fermé à une vente du club, mais à ses conditions à lui. Et c'est quelqu'un qui adore négocier, qui adore le business d'entreprise. Il est nullissime dans le football en tant qu'homme d'affaires, mais il est excellent dans le business hors football. Donc c'est quelqu'un qui adore ça, les rachats d'entreprise, les ventes. Il a vendu sa dernière entreprise encore 900 millions de dollars il y a 1 ou 2 ans. Donc le FC Nantes, c'est un peu c'est son jouet. Franck Kita, lui, n'a pas du tout envie de s'en séparer. Mais le père est plus enclin à une vente. Mais il faudra mettre l'argent. Effectivement, il y a eu plusieurs tentatives de rapprochement. Il y a eu un fonds anglais, il y a eu un prince cambodgien, celui qui avait essayé de racheter Saint-Étienne, a aussi monté un dossier auprès de banque d'affaires pour racheter le FC Nantes. Valdemar Quitta s'invente une conscience en disant non, non, je ne veux pas vendre le club à n'importe qui, je veux pas qu'il y ait de licenciement, je veux le laisser entre de bonnes mains, parce qu'il se dit traumatisé par ce qui s'est passé à Lausanne, puisque lui certifie que c'est une fois le rachat effectué, la vente du club effectuée, que Lausanne s'est effondrée, et que c'est pas sous lui que Lausanne s'est effondrée. Donc lui dit je veux pas revivre ça, je laisserai à des gens sérieux. Dans les petits bruits qu'on peut entendre ici et là, quand on laisse traîner les oreilles en off, il se dit assez lassé par la situation, la défiance des supporters, lassé sportivement de continuer à dégringoler année après année. La saison Covid où on se sauve pour un but en barrage contre Toulouse, on y croyait en cadre de relégation. On laissait entendre que Valdemar Quitta pourrait laisser le club en cas de descente. Donc ça, on y a cru. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'infos sur des consortiums, des fonds intéressés. Il y en a sûrement, mais ça fuite pas. Et aujourd'hui, Valdemar Quitta laisse moins entendre qu'il est vendeur. Mais y a, ça s'affaire quand même beaucoup en coulisses pour essayer de trouver des investisseurs pour acheter le club.
Okay, on va conclure avec une dernière question. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais il y a évidemment le risque de relégation. Tu as parlé de la possible vente s'il y avait relégation. Est-ce que, déjà dans les mois qui suivent, est-ce qu'on peut imaginer Nantes descendre? Nous, on a dit que c'est un club historique et qu'on ne voudrait pas avoir quelque chose de similaire à Saint-Étienne et Bordeaux, mais c'est une possibilité, autant que Lyon ou d'autres clubs historiques. Donc déjà, de ce point de vue-là, est-ce qu'en supporter, on imagine une descente et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au FC Nantes pour se relever dans les années à venir?
Bah, déjà, la descente, nous, on sait que ça va faire comme Toulouse il y a quelques années, qui avait 3 ou 4 ans de suite terminé premier non relégable. Au bout d'un moment, ils sont tombés. Et nous, là, ça va faire la troisième année en 4 ans qu'on va jouer le maintien. Il y a eu l'année Covid. Après l'année Covid, il y a eu la super année Coupe de France et 7e place portée par le duo Blas-Colomoini. Et puis l'année dernière, on a encore frôlé la relégation où on se sauve à la dernière journée. Cette année, on sait qu'on va revivre ça, très probablement. Jocelyn Gourvennec, lui, est plutôt confiant pour un maintien tranquille. Ici à Nantes, on ne l'imagine pas du tout comme ça. On voit que l'effectif est complètement déséquilibré. On a quand même une ossature avec plein de joueurs qui ont vécu les deux quasi-descentes, donc qui sont complètement traumatisés. Tu le vois, quand tu mènes 1-0 en fin de match, c'est la panique totale dans cette équipe. Donc non, on n'imagine pas forcément une deuxième partie de saison intéressante. On a vu deux, trois belles choses depuis l'arrivée de Gourvennec, mais il perd tous ses matchs, donc c'est compliqué d'imaginer qu'il se relève comme ça. On a vu de belles choses malgré les éliminations face à Laval et les défaites face à Clermont qui étaient vraiment des hold-up pour le coup. Face à Reims, c'est aussi incroyable qu'on revienne avec seulement un point. Donc j'ai envie de me dire que le travail de Gourvennec commence à payer et que on va se maintenir, mais on ne se fait pas trop d'illusions. On sait qu'il y a un très gros risque qu'on finisse par tomber. Ça peut être dès cette année. Est-ce qu'on peut nous souhaiter pour les années futures, c'est la vente du club à un investisseur pleinement investi dans la réussite du FC Nantes, pleinement investi plutôt dans le sportif que dans les affaires, et qu'on arrête d'avoir le nom FC Nantes associé à des affaires judiciaires. Déjà, ce serait pas mal qu'on retrouve un peu de jeunes dans l'équipe, puisqu'avec le départ de Quentin Merlin, heureusement, Nathan Zézé a l'air de gagner sa place de titulaire, mais on n'avait plus de joueurs formés au club dans l'équipe, donc à Nantes, c'est un peu terrible pour nous. Mais voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est peut-être une vente du club, évidemment, c'est le doux fantasme de tout le monde maintenant, à un investisseur pleinement investi et qui aurait envie de voir le FC Nantes remonter au classement avec une vraie cellule sportive en lien avec le centre de formation, etc., pour voir un vrai club de foot, quoi, qui nous fasse vibrer. On ne demande pas de terminer dans les quatre premiers tous les ans. On veut juste s'amuser à nouveau à la Beaujoire où on est, depuis notre montée il y a 10 ans maintenant, beaucoup, beaucoup battu.
Ok, merci mille fois Manu d'avoir pris le temps de nous répondre à nos questions. N'hésite pas à demander aux auditeurs d'aller te suivre parce qu'il y a énormément d'infos qui tombent régulièrement sur le FC Nantes sur ton compte Twitter. Et puis nous, on se dit à une
Aujourd'hui, avec
prochaine
ce
pour
dernier
Onzemar.
jour de transfert.
C'est ça, c'est ça. Et nous, on se dit à une prochaine pour Onzemar. À très
Avec
vite.
plaisir.